avec un talent extraordinaire de metteur en scène formidable. Il m'explique son histoire comme quoi, dès qu'il était né, de fille qu'il était, on l'avait habillé en garçon. Et il avait ajouté, et pourquoi je joue si bien les rôles de femme? C'est parce que, en réalité, je suis une femme, mais je ne peux pas le dire.
Bonsoir, il arrive que le crime avance parfois fardé, maquillé, perruqué et chante des airs d'opéra avec un accent exotique. Il arrive aussi que la chanteuse soit un chanteur, que Madame Butterfly soit en quelque sorte un Monsieur Butterfly et cache un profil d'espion. C'est cette histoire qui dépasse l'imagination hors norme et spectaculaire que nous avons choisi de raconter ce soir, celle de la chanteuse chinoise Shi Peipu et du diplomate français Bertrand Boursicot. Comment ce dernier a été pendant une vingtaine d'années abusé par celle qu'il croyait être une femme et qui était en fait un homme, piégé par amour. Bernard Boursicot a trahi son pays en livrant des documents confidentiels au service d'espionnage chinois. Scénario invraisemblable, mais pourtant bien réel, qui reste aujourd'hui encore l'une des plus spectaculaires histoires d'espionnage. Un travestissement érigé en œuvre d'art qui va permettre aux autorités chinoises de récupérer des dizaines de documents classés confidentiels jusqu'à ce que ce troublant manège ne soit mis au jour par le contre-espionnage français et que le véritable sexe de la chanteuse ne soit révélé aux yeux du monde.
20h-21h, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime.
Ce soir, dans l'heure du crime, l'affaire de la chanteuse d'opéra et du diplomate, affaire qui se transformera des années plus tard en scandale sur fond d'espionnage et qui débute au milieu des années 60 à Pékin. Quelques jours avant la Noël 1964, la toute nouvelle ambassade de France à Pékin donne une grande réception. Paris a reconnu il y a seulement quelques mois la République populaire de Chine et son leader Mao Tse-tung. Les relations sont plutôt beau fixe. Ce soir-là, c'est l'émissaire du général de Gaulle, en personne Claude Chaillet, qui reçoit ses hôtes. Le tout Pékin politique, intellectuel et artistique est invité. Le personnel de l'ambassade est également convié à cette soirée chaleureuse où les bavardages couvrent le bruit des coupes de cristal. Au milieu de cette assemblée, Bernard Boursicot ne semble connaître personne. Il a 20 ans, il est un simple employé des services consulaires, affecté à des tâches administratives. Au cours du cocktail, il fait la connaissance d'un jeune homme qui porte le costume Mao et avec qui il a immédiatement sympathisé. Alors que Boursicot ne parle pas un mot de chinois, cet invité parle parfaitement le français. Une silhouette très fine, des traits féminins, un garçon maquillé qui dit avoir 26 ans et s'appeler Shi Peipu. Ce Shi Peipu n'est pas un inconnu de la communauté française. Il se présente comme artiste lyrique, auteur de livres et d'opéras et professeur de chinois. Les épouses des diplomates raffolent de sa compagnie. Il n'y a pas mieux que lui pour donner des conseils de maquillage, de coiffure ou choisir telle ou telle tenue. Sa voix aussi fait sensation. Elle n'est absolument pas grave pour un garçon et convient parfaitement à certaines pièces lyriques. Shi Peipu connaît le tout Pékin, a su gagner la confiance des uns et des autres et fait figure d'invité récurrent de l'ambassade. Pour Bernard Boursicot, cette rencontre est la bienvenue. Il a beau faire partie du personnel diplomatique, personne ne lui parle, peut-être en raison de son rang alors subalterne. Boursicot, fils d'un comptable et d'une couturière de Vannes, a juste son BEPC, son brevet d'études en poche, même pas le bac. C'est avec ce seul diplôme qu'il a été recruté par le Quai d'Orsay. Il est arrivé à Pékin le 24 octobre, après avoir eu l'autorisation de sortie de territoire signée par ses parents, la majorité étant alors fixée à 21 ans. Le chanteur Shi Peipu est très loin de le laisser indifférent. De sourire en plaisanterie, le courant passe entre les deux jeunes hommes. Aucun doute là-dessus, ces deux-là sont appelés à se revoir. Didier Boussard, bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez réalisé un documentaire intitulé « L'espion de Mao ». Merci beaucoup d'être ce soir l'un des invités de l'heure du crime. Documentaire diffusé sur France 3 l'an dernier. Très détaillé et vous avez rencontré... à cette occasion, Bernard Boursicot. Est-ce que vous pouvez nous dire, alors on va évidemment parler de tout ce qui va se passer, mais on va prendre un petit peu les choses dans l'ordre, qui est-il ce jeune employé consulaire, parce qu'il n'est pas diplomate, voilà. Évidemment, au début. Hein.
En fait, au départ, il est comptable. Il est simplement comptable. Il a 20 ans, il cherche du travail. Il va au Quai d'Orsay, il adore les voyages. Et puis, cette ambassade s'ouvre à Pékin. Il se retrouve à Pékin comptable dans une ambassade. Et il découvre la Chine en 64. Il faut imaginer la Chine de Mao Tse-tung en 64, avec les hommes et les femmes habillés pareil, les bicyclettes, etc. etc. Et c'est vrai que ça va jouer, je pense, dans le fait qu'il va être, comme on dit, tamponné par les Chinois, par les services chinois. C'est qu'il est, il fait partie du personnel subalterne. Mmh. Et puis, il y a quelque part dans l'ambassade l'aristocratie des ambassadeurs, des attachés, etc., qui sont peut-être un peu référents, enfin, qui, quelque part, ont du mal à discuter avec le personnage subalterne. Et puis, peut-être, ça va jouer sur son ego. Mmh. Voilà. En même temps, Chipepou a un charme fou. Mmh. Un charme fou. Il a offert ses services à l'ambassade de France. Il parle bien le français, donc il traduit. Il les facilite autour de l'administration. Il donne des cours de chinois. Oui, et l'amitié va se...
Et puis ce que je disais, c'est que ce Bernard Boursicot, il est tout timide et puis il est un peu perdu. Il vient d'arriver en Chine. Et il est heureux finalement d'avoir un contact comme ça, quelqu'un qui parle français.
Ce qui va jouer aussi après, c'est qu'il est totalement, je pense, immature sexuellement. C'est-à-dire qu'il vient quand même d'une Bretagne catholique des années 60, dans le Morbihan. Voilà. Et d'un seul coup, il va découvrir autre chose. Donc je pense que... Il dit dans le film que d'ailleurs Chipepou va être son premier amour.
C'est ça. Il va découvrir une part de paradis. Pourrait-on dire. Hein.
Absolument.
On va continuer un petit peu la galerie de portraits. Maître François Morette, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous avez été l'avocat de Chipepou, donc le chanteur ou la chanteuse chinoise, on va le voir par la suite. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous décrire brièvement qui est ce jeune chinois, à quoi il ressemble ?
Alors, il avait un visage qui aurait pu être celui d'une femme. Il n'est pas efféminé, si vous voulez, mais qui aurait pu être celui d'une femme. En passant de taille moyenne, normalement constituée. Et pas oublier que c'était un chanteur. Par conséquent, les chanteurs ont besoin d'avoir le torse bien développé. Voilà comment il était physiquement. Il avait un visage qui n'exprimait pas grand-chose. Sinon, sur le plan intellectuel, c'était un type fort intelligent, très cultivé, menteur comme un arracheur de dents. Mais menteur, des bons mensonges, quoi, des belles choses, pas le petit menteur d'occasion. Et il mentait avec intelligence et pour des raisons précises, parce qu'il avait quelque chose à y gagner.
Alors ça, c'est le portrait, effectivement, d'un bonimenteur. Bonsoir, Jérôme Poirot.
Bonsoir.
Merci beaucoup, vous également, d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes spécialiste du renseignement et auteur notamment de l'auteur du livre « Renseignement et espionnage au-delà des légendes » paru chez Plon. Vous allez nous être très précieux ce soir, parce qu'il va falloir remettre un petit peu les choses dans leur contexte. On sait que les ambassades sont toujours finalement le creuset de rencontres, non pas douteuses, mais enfin qui permettent des ouvertures en matière de renseignement. Là, c'est parfaitement le cas, c'est la démonstration. On est au tout début de l'affaire, mais déjà, il y a quelqu'un qui jette le grappin sur quelqu'un, c'est ça ?
Ah, les ambassades ont toujours été des nids d'espions. Mmh. Les ambassadeurs, mais depuis des siècles, ont toujours joué un rôle très important dans la collecte d'informations, sans commettre d'infraction, mais les diplomates sont au contact de beaucoup de monde, c'est leur métier, et donc à travers ça, ils collectent beaucoup de renseignements, ils ont des conversations, c'est très important qu'ils nouent des relations personnelles dans les pays où ils sont, et a contrario, dans l'autre sens, ce sont pour les pays qui accueillent ces ambassades et ce personnel diplomatique des cibles très importantes des services de renseignement, parce que s'ils arrivent à recruter soit des ambassadeurs, soit du personnel d'ambassade, ils auront accès à des informations très précieuses.
Alors là, on est en Chine au milieu des années 60. On peut dire que c'est un pays neuf qui s'ouvre, hein, qui commence à prospérer avec Mao. C'est pas un pays qui est hostile à la France, la Chine, à
ce moment-là ? Pas du tout. C'est un pays d'ailleurs d'abord très arriéré et qui a beaucoup souffert d'une longue guerre civile et puis qui a souffert parce que Mao Tse-tung a eu différentes politiques et il a eu le grand bond en avant dans les années 60, au début des années 1960, qui a conduit à ce que des dizaines de millions de Chinois meurent de faim. Donc c'est un pays qui est très neuf, c'est vrai, et dont les relations avec la France sont étroites, puisque la France est un des premiers pays, un des premiers grands pays, avoir reconnu la Chine au début de l'année 1964. Auparavant, c'était Taïwan, donc la Chine nationaliste, qui siégeait à l'ONU, sera le cas jusqu'en 1971. Donc, c'est un pays très pauvre, très faible, mais qui a de grandes ambitions.
Alors, je rebondis sur ce que disait Didier Boussard, qui est à côté de vous et qui est l'auteur du documentaire sur l'espion de Mao. Vous parliez, Didier Boussard, de la porosité, hein, finalement, de ce personnage qui est un petit peu fragile comme ça. Hein, c'est ce que vous disiez. Hein.
Il est un peu fragile, et puis je pense que dans ses engagements, c'est important aussi. C'est que Bernard Boursicot vient souvent en France, il vient souvent à Paris. Il habite chez les Langlois, à la Cinémathèque. Il fréquente des intellos, quand même. Il fréquente des gens...
Ça, c'est important. Important.
Il a un tropisme, quand même, pour la Chine. Et puis, on a la période autour de mai 68, les Mao, les drapeaux rouges. Il n'y a que le côté romantique. Que le côté romantique des slogans et des drapeaux. On voit que, dans la révolution culturelle, on ne voit que ce côté-là. Donc, idéologiquement parlant, il reconnaît qu'il était sensible à ça.
Il y a une attraction.
Hein. Une attraction idéologique.
Il y a une attraction. Jérôme Poirot, cette porosité. Alors, je vais vous poser une question très difficile. Comment on choisit finalement une cible, entre guillemets ? Pourquoi on va se jeter sur Boursicot et pas son voisin ?
Ouais, il y a plusieurs raisons. Alors, il faudrait poser la question aux Chinois. Mais il y a une...
Ils sont pas là.
Il y a une raison, très importante qu'on oublie souvent, c'est que le personnel, disons, subalterne dans les administrations, dans les ambassades, dans les armées, c'est-à-dire les secrétaires, les gens qui portent le courrier, etc., sont des gens qui sont très intéressants à recruter parce que personne ne s'étonne jamais qu'une secrétaire transporte des documents ou fasse des photocopies. On s'étonnerait davantage qu'un ambassadeur fasse des photocopies. Mmh. Et donc, ce sont des cibles très importantes. Par exemple, les services de renseignement de l'ancienne Allemagne de l'Est ciblaient en Allemagne de l'Ouest les secrétaires des responsables politiques, etc. Et puis, ensuite, on choisit des gens dont on pense qu'on peut trouver un moyen de les amener à trahir. Donc ça peut être l'ego dont parlait Didier Boussard, ça peut être de l'argent, ça peut être l'idéologie, dans le cas de Boursicot, c'est un peu les deux.
Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a sans doute des petits coups de sonde aussi. Hein, on sait pas que ça va marcher comme ça.
Non, tout ça.
On s'approche doucement et puis on voit comment la personne marche.
Tout ça se prépare et vous avez donné un des moments importants de son recrutement, c'est-à-dire ce cocktail à l'ambassade de France à la fin de l'année 1964. Et donc, il faut créer une relation sympathique. Donc, ce Shi Peipu était très sympathique avec Bernard Boursicot.
Le petit employé consulaire Bernard Boursicot n'est pas indifférent au charme de Shi Peipu, mais il s'agit d'un homme. Le Français hésite à se lancer dans une romance. Une révélation va le faire changer d'avis. Le jeune employé d'ambassade Bernard Boursicot retrouve fréquemment le chanteur Shi Peipu pour des dîners dans des restaurants de Pékin. Le jeune artiste lui fait découvrir les parcs de la ville, lui apprend des expressions locales, lui montre la cité interdite. Shi Peipu est un guide et un ami. Pas de romance en vue pour l'instant, pas de flirt. Le fait qu'il s'agisse d'un homme freine quelque peu les ardeurs du Français. Celui-ci d'ailleurs ne va pas s'éterniser en Chine. Il s'ennuie en l'ambassade où il ne parvient pas à se faire une place et des relations. Et où il ressent presque une ambiance hostile. Au mois de mai 1965, Boursicot annonce donc à Shi Peipu qu'il va quitter le pays. Il a demandé une autre affectation. Le chanteur chinois lui fait alors une extraordinaire déclaration. Il n'a jamais été un homme, il est une femme. Shi Peipu raconte que ses parents l'ont élevé comme un garçon et l'ont toujours présenté ainsi pour la raison suivante. Ils avaient déjà eu deux filles. S'ils avaient avoué que leur troisième enfant était également une fille, son père aurait dû prendre une seconde épouse pour assurer une descendance masculine. Car ainsi le veut la tradition chinoise. Shi Peipu fait donc semblant d'être un garçon. Après cette révélation, Bernard Boursicot, qui brûlait déjà de passion pour Shi Peipu, est ivre de joie. Il peut donc, sans crainte, s'engager dans une liaison, même s'il va falloir être prudent et discret. Les relations entre Chinois et Occidentaux sont prohibées et peuvent même conduire à la prison pour les autochtones. Boursicot n'a aucun doute sur le sexe de Shi Peipu, chanteuse et non chanteur. Sa voix, ses manières, ses gestes, ses mains si fines, son goût pour le maquillage ne trompe pas. Les ébats intimes qui suivent confortent le jugement de l'employé consulaire. Il se déroule dans la pénombre. Shi Peipu est le plus souvent drapé d'un voile, se dit trop pudique pour dévoiler son intimité. C'est elle qui guide toujours l'étreinte. L'amant français doit se laisser faire. Ce dernier n'est pas surpris. Il pense que ce genre de relation, dans l'obscurité, est dans les mœurs chinoises. Il est même convaincu qu'il a défloré sa maîtresse, puisque lors de leur première relation, une goutte de sang a glissé le long de sa cuisse. La relation secrète entre Bernard Boursicot continue de plus belle. Fin 1965, alors que le Français est désormais sur le point de quitter Pékin, Shi Peipu lui annonce qu'elle est enceinte. La chanteuse dit qu'elle va avorter, mais son amant lui demande de garder l'enfant. Dans quelques mois, alors en poste à Jeddah, en Arabie Saoudite, il apprendra qu'il est le père d'un petit garçon, Shi Dudu. Alors Didier Boussard, là on commence à rentrer un petit peu dans le cœur de l'histoire. Question toute simple, qu'est-ce qui vous dit là-dessus, Bernard Boursicot, que vous avez rencontré pour votre documentaire? Comment arriver à croire à cette histoire, de naïveté?
Il y a cru jusqu'au procès.
Ah oui, ça évidemment, il y a cru jusqu'au procès, voilà. Mais alors, après, quand on se met dans sa tête, comment est-ce qu'il fonctionne,
après, Bernard Boursicot? Après, ce qui est important de savoir, c'est que dans des officines homosexuelles un peu spécialisées, c'est une pratique homosexuelle, c'est-à-dire c'était le cas de Shi Peipu, il pouvait rentrer ses testicules à l'intérieur de son ventre et il ligaturait son pénis très fort le long de sa cuisse. Voilà, ça c'est important.
Ça c'était la technique.
C'est la technique. Ah. Et au demeurant, dans le film, il y a le Raymond Nart qui est à l'époque patron
qui a été le numéro 2 de la DST. Voilà.
Et après l'affaire, plusieurs années après, il ira en Chine. Les Chinois, évidemment, jamais ne reconnaîtront l'affaire. Mais il a compris que ce genre d'officine homosexuelle existait et surtout travaillait de temps en temps pour les services secrets chinois.
C'est ça. Il y avait une main d'œuvre.
Il y avait une main d'œuvre. Voilà. Et ce qui est important aussi, justement, et c'est plus tard, c'est quand même c'est l'histoire du maître des ténèbres. C'est derrière tout ça, il y a Ken Sheng. Ken Sheng, c'est le patron des services.
On va y venir dans le récit. On avance doucement. Voilà. Et effectivement, on va découvrir.
Mais Bernard Boursicot y a cru, ce qui est dément, c'est que quand il va présenter des photos de son gamin à sa maman dans le Morbihan, elle va dire « mais il te ressemble comme deux gouttes d'eau ».
Incroyable.
Incroyable. Il est persuadé que c'est son gamin.
Jérôme Poirot, est-ce qu'on peut dire que Shi Peipu, je rappelle que vous êtes spécialiste du renseignement, et puis votre livre Renseignement et espionnage au-delà des légendes, et vous êtes un peu notre guide maître espion ce soir dans cette heure du crime, est-ce qu'on peut dire que Shi Peipu, le chanteur-chanteuse, est déjà programmé à ce moment-là pour une mission précise?
Ah, bien entendu.
Et depuis longtemps?
Oui, vraisemblablement, parce que, comme vous l'aviez dit, il parle parfaitement français. Et donc un jeune Chinois de 20 ans, à cette époque, qui parle parfaitement français, il n'y en a pas des milliers ou des dizaines de milliers. Donc il a été très bien éduqué, il est très cultivé, ça a été dit. Et donc soit il était un agent des services de renseignement chinois, soit il était entre leurs mains. Mais en fait, peu importe. Et donc il a effectivement été programmé pour cela, parce que sa maîtrise du français et puis sa capacité à créer des liens du fait de son activité de chanteur, etc., faisait que très naturellement, il pouvait pénétrer l'ambassade française et recruter quelqu'un en son sein.
C'est ça, oui, il était donc programmé pour cela. On va rappeler Maître François Morette, qui est l'avocat de Shi Peipu. Comment expliquer, François Morette, que Bernard Boursicot ne soit pas rendu compte du véritable sexe de sa partenaire? Didier Boussard nous a dit qu'il y avait toute une technique, et on a quand même toujours du mal à croire qu'il n'ait rien vu ou rien senti, je ne sais pas ce qu'on peut dire.
La relation de leur nuit d'amour, hein, c'est que donc Shi Peipu reçoit Boursicot. Il veille à ce qu'il n'y ait aucune lumière, on est dans le noir absolu. Shi Peipu, alors en plus, Boursicot est très, très inexpérimenté. Hein. Shi Peipu ne l'est pas terriblement non plus. Donc Shi Peipu va se coucher, il va serrer les cuisses, dissimuler le plus possible son pénis, et Boursicot va accomplir l'acte, en fait, entre les cuisses de Shi Peipu sans se rendre compte qu'il n'y a rien, que ce sont simplement c'est l'espace entre les cuisses, vous voyez. Et quand après, Shi Peipu va lui dire qu'il a été enceinte, qu'il a eu un fils, etc. Boursicot va le croire. Mmh. C'est ça l'histoire, vous voyez.
Jérôme Poirot, là, il y a toute une technique, si je puis dire, hein, qui est très détaillée, etc. Oui. Voilà, donc c'est très professionnel comme action. Alors, c'est un très grand volet, mais vous le connaissez évidemment. Le sexe, c'est vraiment une des armes en matière d'espionnage.
C'est une arme dans beaucoup de domaines, mais depuis toujours, c'est une arme dans le domaine de l'espionnage, parce que ça permet de recruter, alors souvent des hommes, parce qu'on leur envoie des jeunes femmes, mais ça permet de recruter aussi des femmes en leur envoyant de jeunes hommes. C'est très très ancien. S'agissant des Chinois, il y a un vieil ouvrage de stratégie, un très ancien, qui s'appelle les 36 stratagèmes, et le 32e s'appelle le piège de la belle. Et donc c'est effectivement ce qu'on voit avec l'affaire Shipeipo. Ouais. Mais les Russes, puis les Soviétiques et maintenant les Russes, ont toujours aussi fait beaucoup appel aux jeunes femmes, on appelle ça des hirondelles. Les Américains ont toujours fait ça aussi, on appelle ça les honey traps, donc des pièges à chérie. Ouais, chez les Israéliens, ça porte un autre nom. Donc c'est aussi vieux que le monde, parce que souvent les hommes qui ont une très haute opinion d'eux ne s'étonnent pas finalement que de très jeunes et très jolies jeunes femmes tombent follement amoureux.
Oui, c'est tout à fait naturel.
C'est naturel.
Mais alors vous parlez de tous ces pays, mais les Français aussi, ils pratiquent cette méthode.
La France
ne dites pas non, sûrement.
Non, je ne dirais ni oui ni non, mais la France est un très grand pays d'espionnage et depuis très longtemps et utilise toutes les meilleures techniques.
Voilà, donc les meilleures et parfois...
Autrefois, on avait le chevalier Déon, le célèbre chevalier Déon, qui était en même temps homme et femme, qui était un des plus grands espions de l'époque.
Exactement.
Mais il faut distinguer deux choses, en fait. Vous avez des agents, ce qui est le cas de Shipeipo, en fait, qui utilisent leur corps et donc qui utilisent l'arme sexuelle. On le voit très bien dans une série américaine qui est très connue, The Americans, qui met en scène deux illégaux soviétiques aux États-Unis au début des années 80. Mais vous avez une technique qui est plus largement répandue, c'est de faire appel à des professionnels, c'est-à-dire des prostituées qui sont au service des services de renseignement.
C'est beaucoup plus classique.
C'est plus classique et ça apporte un professionnalisme qui est très important. Mais dans le cas de Shipeipo, je pense qu'on peut supposer, enfin c'est même certain, qu'il a suivi un entraînement sexuel avant d'être en contact avec Bernard Boursicot.
Bernard Boursicot va revenir quelques années plus tard en Chine avec l'espoir de voir enfin son fils Shi Dudu et bien sûr de retrouver l'amour de sa vie, Shi Shipeipo. Les retrouvailles vont être très particulières. En septembre 1969, Bernard Boursicot revient à l'ambassade de France à Pékin en qualité d'archiviste. Le pays est alors bouillonnant, en pleine révolution culturelle. La police est omniprésente et les gardes rouges règnent. Difficile de pouvoir renouer le lien avec Shipeipo et encore plus de réussir à l'approcher. Elle lui fait savoir que leur fils n'est pas à Pékin, mais dans une province éloignée, le Yunnan. Shi Dudu est là-bas en sécurité chez des paysans. Impossible de le voir, c'est beaucoup trop dangereux en ce moment. Boursicot obtempère, il patientera en tout et pour tout 7 ans avant de pouvoir rencontrer ce mystérieux enfant. Le couple clandestin se retrouve tous les 15 jours jusqu'à ce qu'il soit dénoncé. La chanteuse va alors passer quelques jours dans un poste de police, puis va être relâchée. La liaison est des plus compliquées. C'est à ce moment-là que Shipeipo lui présente un homme qui peut les aider, un certain Kang, francophone, qui travaillerait pour la ville de Pékin. Kang et l'un de ses amis, Zhao, prennent alors en main la destinée de Bernard Boursicot. Pour que la liaison se perpétue avec sa maîtresse, il doit s'initier aux préceptes du maoïsme et au petit livre rouge. Boursicot est d'un naturel curieux. Il s'y plie de bonne grâce et fait preuve de très bonne volonté. Pour prouver sans doute qu'il est coopératif et veut faire plaisir à ses amis, il remet de sa propre initiative, dira-t-il, une enveloppe scellée, volée sur le bureau d'ordre de l'ambassade. Il ne s'agit pas d'un document de très haute importance, mais le Français est persuadé que ce geste permettra d'assurer la sécurité de sa maîtresse et de leur fils. Sur ce point, le rapport de la Direction de la surveillance du territoire, la DST, l'ancêtre en quelque sorte de l'actuel DGSI, indique « Ainsi commença la collaboration de M. Boursicot avec un fonctionnaire du ministère de l'Intérieur chinois ». Kang et Zhao sont effectivement des fonctionnaires du Diao Shabu, le service de renseignement du comité central du Parti communiste. Ils appartiennent, selon les notes du renseignement français, à une section spéciale chargée de recruter et de compromettre des étrangers en poste en Chine. Même s'il n'est pas un diplomate de premier plan, Bernard Boursicot les intéresse car il est employé du bureau d'ordre de l'ambassade. Il est plus spécialement chargé de détruire le courrier. Il n'a donc à ce poste aucune difficulté à détourner tel ou tel pli. Jusqu'en 1972 et son deuxième départ de Chine, Boursicot fournit trois fois par semaine des documents. Les Chinois lui demandent tout ce qui concerne leur ennemi juré, l'URSS. Par zèle, il arrive même à Boursicot de fouiller la valise diplomatique. Il y subtilise un jour une lettre du prince Sihanouk du Cambodge et se fait sermonner par ses agents traitants avec ces mots « Le prince Sihanouk est un ami de la Chine, remettez immédiatement ce pli à sa place, camarade ». Didier Boussard, auteur d'un documentaire sur cette affaire. Alors là, il y a la prise en main, si je puis dire, de Boursicot, qui est beaucoup plus nette. On dépasse le cadre de la simple chanteuse ou du simple chanteur. Qu'est-ce qu'il vous raconte là-dessus, Boursicot, sur cette approche des services chinois?
Ça s'est fait naturellement. Je pense qu'il... parce qu'il dit souvent, quand même, j'ai servi deux maîtres, la France et la Chine. C'est toujours compliqué.
Ah, il le dit.
C'est compliqué de servir deux maîtres, quand même. Voilà.
C'est impossible.
Voilà. Et il considère que, c'est que les documents qu'il a donnés aux Chinois n'étaient pas forcément de grande valeur. Quelquefois, il s'est contredit. Par exemple, plus tard, beaucoup plus tard, par exemple, quand on est à la fin de la guerre du Vietnam, il ne faut pas oublier qu'au Vietnam, les Chinois ont 300 000 soldats du côté des Vietcong, que toute la logistique de la guerre et la défense antiaérienne, c'est la Chine. Par exemple, l'ambassadeur de France à Washington rencontre le secrétaire d'État américain à la défense ou le vice-président des États-Unis. Ils échangent sur la guerre. De cet entretien, il y a une note de synthèse. Cette note est communiquée aux ambassades concernées, dont l'ambassade de Pékin, et Boursicot l'a fait aux Chinois. Donc, quand l'ambassadeur de France à Washington rencontrait une autorité américaine, ils avaient la synthèse. Donc, je pense qu'il a donné quand même des documents de certaines valeurs. Quand même.
Bien sûr, et puis il y a eu beaucoup, beaucoup de documents échangés. Donc, voilà. Fatalement, dans le lot, il y a des documents qui devaient être très, très importants. Jérôme Poirot, spécialiste du renseignement, dites-moi un petit peu ce qu'est ce Diao Shabu, c'est ça, le service de renseignement chinois. Et ils sont efficaces?
Alors, il faut distinguer la période dont on parle,
qui est ancienne,
les années 60. Enfin, oui. La Chine est un très vieux pays d'espionnage, et dès cette époque, les services de renseignement chinois sont très performants, d'abord pour contrôler la situation dans le pays, contrôler la population, contrôler l'opposition, et puis dans les relations extérieures, parce que, comme vous le disiez, la Chine a des ennemis, Taïwan, l'URSS, et puis elle a peu d'amis. Finalement. Et donc, la Chine a toujours eu une stratégie de puissance et ça repose pour une grande partie sur des services de renseignement. Il y a ceux de l'armée populaire de Chine, ceux du ministère de l'Intérieur, ceux du ministère des Affaires étrangères, ceux du Parti communiste. Donc, il y a une immense galaxie dès cette époque de services de renseignement.
Est-ce que Didier Boussard, il rentre là dans un engrenage fatal?
Il rentre dans un engrenage.
Il ne va plus pouvoir s'en sortir.
Ouais, il rentre dans un engrenage fatal. Il le fait avec beaucoup de facilité. Je lui demandais s'il avait des angoisses, s'il n'en avait aucune. Ce qui est important dans l'histoire, c'est qu'il ne sera jamais attrapé, on va dire, dans la main dans le sac. C'est que, par exemple, quand l'ambassadeur de France lui demande de détruire les documents, ben, il les détruit en les donnant en chinois. Et puis le reste du temps, il est archiviste, il sort les documents à midi, à la pause déjeuner, les Chinois le photographient et puis il les remet en place l'après-midi.
Jérôme Poirot, c'est normal ça qu'on ne voit rien, que les services de l'ambassade ne voient rien, ne se doutent de rien?
Non, ça n'est pas normal, mais c'est assez fréquent à cette période. Il y a eu un certain nombre d'affaires qui ont été rendues publiques à cette période. Une autre à la même époque, d'ailleurs en 1964, c'est l'ambassadeur de France à Moscou, Maurice Dejean, qui fait l'objet d'une tentative de chantage par le KGB, parce qu'il a une liaison avec une jeune russe. Et puis cette liaison se poursuit, et un jour, il est dans une chambre avec cette dame, et son prétendu mari rentre dans la chambre, il y a un scandale, et donc il fait l'objet de pression, auquel il ne cède pas, il est rappelé à Paris, il voit le général de Gaulle qui lui dit cette phrase célèbre, « Alors deux gens, on couche », donc il y avait des faiblesses. Il y en a eu, il y a une autre affaire en 1972-73, c'est l'ambassade de France à Varsovie qui est truffée de micros, et le directeur du SDEC à l'époque, c'est-à-dire l'ancêtre de la DGSE, a fait une note qu'on trouve assez facilement au ministre des Affaires étrangères faut lui dire que le niveau de sécurité dans les ambassades françaises dans le monde est très, très insuffisant.
Et déplorable. Le fait, encore un petit mot, le fait que Shi Peipu dise « j'ai un enfant », voilà, on a eu un enfant, c'est une manière de le harponner.
Bien sûr, c'est pour bien le tenir. À partir de là, ils le tiennent. Et puis, ce qui est hallucinant, c'est que même Shi Peipu lui dit à un moment donné, quand tu viens voir les services, tes contacts, n'apporte pas plus de 2 ou 3 documents, parce que sinon, ils vont croire que c'est trop facile. Mmh. Donc déjà, il est sans arrêt piloté. Et quand à la fin, quand il va quitter la Chine, on lui propose de l'argent, Shi Peipu va lui dire, tu peux demander la somme que tu veux en pièces d'or, on va te payer. Par contre, si tu prends aucune somme, pas d'argent, pour nous, tu seras un héros. Il va préférer d'être un héros.
Bernard Boursicot va quitter la Chine en 1972. Il est appelé à d'autres fonctions, à d'autres postes. Mais il ne va pas cesser pour autant d'aider ses nouveaux amis, histoire que Shi Peipu soit en sécurité. Après avoir quitté la Chine pour occuper des postes à Dublin, puis à Paris, Bernard Boursicot revient pour un voyage privé de 2 mois. Il a l'autorisation de découvrir enfin Shi Dudu, son fils qui portera le prénom français de Bertrand. C'est un enfant de 7 ans, un Ouïghour d'origine de la province du Xinjiang. Bertrand ne parlait pas français. J'ignorais ce que Shi Peipu pouvait bien lui raconter. J'ai su qu'il m'appelait l'oncle de l'avion, racontera Boursicot au journal Vanity Fair. Dans les années qui suivent, le français revient en Asie. Cette fois, il est archiviste chiffreur à Oulan-Bator, l'ambassade de France en Mongolie, l'une des moins favorisées de la diplomatie, des locaux ouverts aux 4 vents, peu ou pas de sécurité. Quand l'hiver arrive, toute l'équipe va vivre à Pékin à cause du froid. Grâce à son poste, Bernard Boursicot peut continuer à alimenter les services de renseignement chinois. Il leur adresse à peu près tout ce qui se présente. Des synthèses sur l'armée soviétique, des informations sur le voyage du président Nixon à Pékin, tout comme une note sur la fourniture d'un seau à glace à l'ambassade. C'est dire si le spectre est large. Au mois de mars 1981, Bernard Boursicot quitte la région. Il rentre en France où il va intégrer le Quai d'Orsay. Un an plus tard, octobre 1982, Shi Peipu le rejoint à Paris avec leur fils Bertrand Shi Dudu. Personne ne sait vraiment comment la chanteuse a obtenu l'autorisation de séjourner en France. Son arrivée, dans tous les cas de figure, ne passe pas inaperçue. Dans les milieux culturels, elle est présentée comme une vedette de l'opéra de Pékin. La DST s'intéresse alors à cette artiste qui visite assidûment l'ambassade de Chine en France, avenue Georges V à Paris. Les policiers du contre-espionnage voient en elle une parfaite agente de Pékin. Ils tiquent encore davantage quand ils s'aperçoivent que Shi Peipu occupe un studio au numéro 93 du boulevard du Port-Royal à Paris, logement appartenant à un agent consulaire sur le point de devenir pleinement diplomate, le dénommé Bernard Boursicot. Le 30 juin 1983, Bernard Boursicot est arrêté avenue Bosquet à Paris et conduit dans les locaux de la DST. Il est inculpé pour intelligence avec une puissance étrangère. Arrêté une semaine après, Shi Peipu nie tout acte d'espionnage. Elle révèle toutefois qu'elle n'est pas une femme, mais un homme. Le juge désigne des médecins pour l'examiner. Aucun doute, ce suspect est bien un homme avec des organes génitaux en bonne et due forme. Bernard Boursicot ne veut pas y croire. Il n'en revient pas. Quand il croise Shi Peipu au dépôt du palais de justice, il lui demande de se déshabiller. C'est bien un homme. Le diplomate fera peu après une tentative de suicide. Jérôme Poirot, est-ce qu'on sait un peu plus dans le détail comment le duo Boursicot-Shi Peipu est tombé finalement?
Il y a la version officielle. Et alors la version officielle n'est pas forcément la vérité, mais...
Donnez-nous la bonne alors.
Alors, je vais émettre différentes hypothèses, mais vous avez dit à l'instant qu'il était assez étonnant que Shi Peipu et son fils aient reçu l'autorisation de s'installer en France en 1982. Donc, ce point doit nous permettre de penser que peut-être le contre-espionnage français avait déjà identifié Boursicot comme étant un traître et Shi Peipu comme étant son agent traitant. Et peut-être le contre-espionnage français a-t-il facilité, au contraire, la venue de Shi Peipu en France pour pouvoir ce qu'on appelle remonter le fil, c'est-à-dire savoir quels étaient ses contacts, avoir une opération qui permette d'en savoir plus sur les méthodes et sur l'espionnage chinois contre les intérêts français, et qu'au terme de ce travail de quelques mois, il décide d'arrêter Bernard Boussicaut et Chipeipou. La version officielle jusqu'à présent, c'est de dire que les surveillances qui sont faites dans les milieux diplomatiques et dans les milieux chinois en France ont permis d'identifier Chipeipou et ses activités. C'est une autre version qui est tout à fait probable, mais on peut penser que Boursicot et Chipeipou avaient été identifiés avant 1982.
En tout cas, ces surveillances ont duré des semaines, des mois.
Oui, quelques mois, oui.
On a suivi. Il y a des gens qui sont devant l'ambassade de Chine quasiment en permanence et ils la voient passer assez fréquemment.
Mais ils ont fait...
Didier Boussard, oui.
Simplement, il y a eu un officier chinois qui a fait défection, qui était proche du pouvoir. Il y avait une purge, il a eu très peur. Il est passé par la base Hong Kong. Apparemment, il s'appelle Yu... Qincheng, et il a parlé à la CIA à Hong Kong et aux Anglais. Il a dénoncé deux personnes, en disant les Occidentaux, vous êtes trahis par deux personnes, Boursicot, le français Boursicot, et un analyste américain d'origine chinoise, qui était un
Donc,
type important.
Il y a aussi cet effet boule de neige, Jérôme Poirot, les services se parlent, évidemment,
oui, sûr,
les services communiquent.
Oui, bien sûr, il y a des coopérations dans beaucoup de domaines, y compris en matière de contre-espionnage. Mais ce qui est très intéressant dans ce que dit Didier Broussard, c'est que quand un service de renseignement a une source, une taupe dans les services adverses, et cette taupe peut, à un moment donné, faire défection, et il y a effectivement des effets boule de neige comme ceux qui ont été décrits. Je pense que la vérité sur... cette histoire et sur comment ils ont été démasqués, il y a différentes hypothèses. Le jour où les archives seront ouvertes, celles de la DST en France ou du SDEC, et peut-être les archives chinoises ou les archives américaines.
Dans quelques années, c'est ça ?
Dans quelques décennies.
Il est arrivé un petit incident. Boursicot, rapidement, m'avait dit qu'il avait fait une erreur. Il avait fait une erreur à Pékin. À un moment donné, 1970, Mao Tse-tung est extrêmement malade et Chipeipou lui dit Mao ne sera pas le 1er octobre à la fête nationale à la Grande Tribune. Et lui, il s'en vante à l'ambassade. Et il fait des paris, on joue du champagne, il gagne des caisses de champagne. Et le lendemain, l'attaché militaire dit « Mais monsieur Boursicot, comment vous pouviez savoir que Mao ne serait pas là, à la fête nationale ? Comment vous le saviez ?» À partir de là, il dit « Merde, j'ai fait une erreur et j'ai été trop... » Voilà.
J'ai été trop ambitieux trop finalement, ambitieux. J'ai trop parlé. Vous disiez, Didier Boussard, que il avait été donc donné par un agent, un transfuge chinois. Ouais. Maître François Morette, il a été donné parce qu'effectivement, il livrait des documents. Est-ce que vous qui connaissez le dossier, vous avez été l'avocat de Chipeipou. Est-ce qu'on connaît la nature des documents que transmettait Boursicot aux Chinois ?
Boursicot était un agent très basique, à la fois à Pékin et à Ulaanbaatar. Et il avait accès à quelques documents qui étaient classifiés. Mais enfin bon, c'était vraiment du bas de gamme. Et ce qu'il transmettait... c'était des documents qui étaient dont une grande quantité était publique, des rapports de ceci ou des rapports de cela, quoi. C'était rien du tout. Que l'affaire était ridicule.
Didier Boussard, qu'est-ce qu'il vous a dit Boursicot sur son arrestation et cette découverte quand il a découvert la sexualité de sa partenaire ou de son partenaire?
Il n'y a pas cru. D'ailleurs, il va tenter de se suicider après. Il est estomaqué. Il rend compte que depuis le début, il est manipulé et que tout est faux. C'est-à-dire que la femme est un homme, que l'enfant n'est pas de lui, que depuis le premier regard, c'était une manipulation et qu'il était tombé dans un piège.
Bernard Boursicot et Chipeipou vont être tous deux renvoyés devant la justice. Ils devront alors s'exprimer publiquement sur leur liaison. L'employé d'ambassade devra dire pourquoi il n'a jamais su que la femme avec qui il dormait était un homme. Ce 5 mai 1986, les amants espions se retrouvent dans le box des accusés de la cour d'assises de Paris. Cour jugeant une affaire d'atteinte à la sûreté de l'État et donc exclusivement composé de magistrats, 7 au total. Bernard Boursicot est en costume gris. Chipeipou ne va être poudré et perruqué que le premier jour seulement. Le président Xavier Versigny ne comprend pas pourquoi Boursicot ne s'est pas aperçu de cette supercherie sexuelle. Au lit, ça se passait comment ? Demande le président. Le français répond : on s'embrassait dans le noir, furtivement, il me guidait pour le pénétrer. Quant à cette histoire d'enfant, je ne suis pas allé vérifier, je n'ai jamais vu son sexe complètement, il était très pudique. La DST voit en Bernard Boursicot un homme fragile. Sa défense indique qu'il n'a transmis aucun document capital mettant en danger la sécurité de la France. L'avocat général affirme que Shi Peipu est un acteur qui a embrigadé le diplomate du grand théâtre, du grand guignol, dit-il. Le verdict tombe, 6 ans de prison pour chacun des accusés. Bernard Boursicot va passer 3 ans en prison à Fresnes et 10 mois à la centrale de Melun. Il se fera ensuite oublier et continuera à voyager. Shi Peipu, lui, libéré avant l'ouverture du procès pour raison de santé, est gracié 1 an plus tard par le président Mitterrand. Un geste sans doute pour faire plaisir aux Chinois. Shi Peipu va rester à Paris, enseignant les arts de l'opéra de Pékin jusqu'à sa mort en 2009 à 70 ans. Leur fils Bertrand Shi Dudu restera également en France, où il fondera une famille. Maître François Morette, avocat de Shi Peipu, on vient de le dire, ce sont plutôt des peines modérées qui ont été prononcées à ce procès. Qu'est-ce qu'a raconté votre client Shi Peipu lors de l'audience ?
Il était égal à lui-même. C'est-à-dire très difficile à cerner, toujours très aimable, courtois, poli. Pas flagorneur, mais voilà, très poli, très précis, racontant des choses avec beaucoup d'intelligence et de qualité. Il parlait très bien français, mais il inventait ou il n'inventait pas, on ne pouvait pas savoir.
Shi Peipu a été gracié très rapidement par le président François Mitterrand. Alors, comment tout simplement expliquer cette mansuétude ?
Lorsqu'on a été condamné à 6 ans, j'ai fait un pourvoi en cassation, évidemment. Et j'ai reçu un coup de téléphone d'un conseiller de l'Élysée, dont je ne donnerai pas le nom, qui m'a dit « faites un recours en grâce ». Je lui ai dit « vous êtes gentil, mais un recours en grâce... faire un recours en grâce, pour faire un recours en grâce, il faut que je me désiste de mon pourvoi. Et si je me désiste de mon pourvoi et que la grâce est rejetée, moi j'ai plus rien ». C'est très compliqué pour moi, c'est pas si évident que ça. Donc, on m'a expliqué, on m'a juré, croix de bois, croix de fer, qu'il n'y avait pas de problème, que la grâce était assurée, etc., que je pouvais y aller, leur faire confiance et tout. Bon, j'ai pesé le pour et le contre, et je me suis désisté du pourvoi, j'ai fait le recours en grâce, et... quand même assez exceptionnel, 48 heures après, ils étaient graciés.
Ils étaient graciés. Jérôme Poirot, on a quand même le sentiment qu'il y a eu une largesse vis-à-vis de Shi Peipu. C'est un peu étonnant, non ?
C'est vraisemblablement une largesse apparente, car le président de la République, de l'époque, n'a sans doute pas gracié Shi Peipu simplement pour faire plaisir aux Chinois. Il y a eu vraisemblablement des contreparties qui n'ont pas été rendues publiques, soit dans le domaine diplomatique, soit dans d'autres domaines.
C'est ça.
Mais ce serait... Enfin, il n'y a aucune raison, aucun président de la République en France ne ferait ce genre de choses.
Il y avait de gros contrats économiques à l'époque avec différents de grands groupes français. Voilà.
Oui, donc il y a toujours des intérêts en jeu. Didier Boulsard, justement, est-ce que ça a été le procès de la gaudriole, si je puis dire, ou un procès plutôt cocasse, le procès de l'espionnage ?
Apparemment, on a beaucoup parlé de gaudriole, on voulait savoir ce qui se passait sous la couette, en quelque sorte, on n'a pas beaucoup parlé de vraiment d'espionnage, et c'est vrai que le gros interrogation, c'est la qualité des documents fournis aux Chinois et le nombre. On a parlé entre 50 et 300, aujourd'hui on ne sait pas, quoi.
Alors, on ne sait pas. Justement, Jérôme Poirot, spécialiste du renseignement, comment est-ce que vous pouvez situer Boursicot, si c'est possible, sur l'échelle des tops, j'ai envie de dire ? Est-ce que c'est quelqu'un qui est efficace, dangereux ?
Oui, efficace, il l'a été, parce qu'il a quand même trahi pendant de longues années. Et il a...
Même s'il n'a pas apporté, paraît-il, des documents très importants, mais en tout cas, il a trahi.
Il a trahi, il a apporté, Didier Boussard le disait tout à l'heure, il a quand même donné des documents qui, pour certains, étaient très importants. Alors, je ne sais pas si on peut le classer sur une échelle. Je pense que c'est avant tout une sorte de Mr. Bean de l'espionnage. Totalement improbable. C'est-à-dire, il a fait de l'espionnage sans vraiment savoir qu'il en faisait, tout en trahissant, tout en étant conscient qu'il était avec une grande décontraction. Didier Boussard, qui le connaît, l'expliquait tout à l'heure. Donc, il est dans une catégorie presque à part, très improbable, et ça a marché.
Et ça fait un bon espion, ça.
Ça fait effectivement
un personnage insoupçonnable.
Voilà, c'est ça. C'est Monsieur Tout-le-Monde, c'est celui dont on ne peut pas penser qu'il peut avoir le rôle qu'il a joué.
Didier Boussard, qu'est-ce qu'il devient aujourd'hui? Vous le connaissez, vous l'avez rencontré pour un documentaire.
Oui, Bernard Broussicot. Il a eu un petit AVC, il est dans une maison de retraite près de Vitré. Il communique beaucoup avec ses amis. Il est très sympathique. Il est très sympathique et il s'intéresse à la Chine. Et il rêve peut-être d'y mourir. Enfin, il fantasme un peu sur les montagnes fumantes.
Ah, il est toujours là-bas.
Toujours un petit peu là-bas.
Il est toujours là-bas. Maître François Moret, en quelques mots, pourquoi cette affaire, selon vous, a autant marqué les esprits?
C'est assez inhabituel. C'est pas très fréquent de se retrouver avec. C'était le premier espion chinois jamais poursuivi en France. Il y a tout ce côté, fantasmagorique. C'est une femme, c'est un homme. Il y avait quand même autour de tout cela, je vous dis, des Chinois qui cherchaient à rattraper ce Peipu pour le renvoyer en Chine et le faire. Il avait déjà été arrêté par les gardes rouges quelques années avant. Et s'il allait être en Chine, c'était pas pour le rétablir dans sa situation de chanteur prodige de l'opéra de Pékin.
Xi Peipu, on le rappelle, qui est enterré au Père Lachaise, ça c'est étonnant, Jérôme Poirot.
Oui, c'est tout à fait incompréhensible parce que c'est pour le Parisien moyen, c'est quasi impossible de pouvoir se faire enterrer au Père Lachaise. Et cet espion étranger qui a travaillé contre la France a obtenu ça en 2009.
Oui, mais c'est peut-être un chanteur de talent.
Oui, mais je pense que la France avait beaucoup de reproches à lui faire.
Cette histoire, en deux mots, vraiment, on arrive au bout de l'émission, emblématique, on peut le dire.
Elle est emblématique parce qu'elle met en lumière tout un tas de mécanismes et ce qu'est finalement l'espionnage entre les grandes puissances.
Didier Boussard,
oui, pareil, il y a de l'aventure, il y a de l'exotisme, il y a la Chine, les nuits câlines, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire.
Merci beaucoup Didier Boussard, Jérôme Poirot, auteur du livre « Renseignements et espionnage, au-delà des légendes » et puis également Maître François Moret qui était au téléphone d'avoir été les invités ce soir de l'heure du crime avec la chanteuse chinoise ou le chanteur chinois et le diplomate français quand le sexe ouvre la porte des ambassades. Merci à Justine Vigneault, Marie Bossard d'avoir préparé cette émission, Marc Bisset à la réalisation. Immense merci à vous toutes et tous d'avoir partagé ce soir encore cette heure du crime.